Vous écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Bonjour, vous rejoignez donc associativement vôtre. Aujourd'hui, l'émission donc qui reçoit des associations. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Yvan Civadon, qui est directeur adjoint du CIRAM, et son président Gérard Roche. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu le CIRAM, C-I-R-A-M-E. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert ?
Eh bien, le CIRAM, ça veut dire que c'est le Centre d'information régionale agrométéorologique. Donc, dans ce sigle-là, il y a deux mots qui sont importants. Région, on y reviendra après, et agrométéorologie. L'agrométéorologie, c'est toutes les relations qui existent entre le climat et l'agriculture.
D'accord. Alors, Monsieur Gérard Roche, vous êtes donc le président. Vous allez peut-être un petit peu nous expliquer le statut du CIRAM, parce qu'on a l'impression que c'est un service public. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une association 1901.
Oui, ce n'est pas du tout un service public. Le CIRAM, dans les années 60, c'était un ingénieur de la météo qui s'appelait M. Chassineau, qui était passionné de météo, naturellement pour son métier, et passionné pour les relations qu'il y avait avec l'agriculture. Et il est allé taper à la porte du Conseil Général, parce qu'à l'époque, ça s'appelait encore le Conseil Général. Et il a rencontré M. Garcet. M. Garcet aussi, lui, était passionné aussi de météo et d'agriculture, parce que c'était quelqu'un du Thor et qui connaissait très, très bien l'agriculture. Et donc, ils ont créé cette institution, le CIRAM. Et le Conseil Général a monté ça, a fait des locaux et a fait fonctionner cette institution qui était une institution du Conseil Général. Au fil des années, le Conseil Général, qui était le principal financeur du CIRAM, s'est aperçu qu'il y avait peut-être là un conflit d'intérêts qui était en train de naître. Et il a donné à la Chambre d'agriculture de Vaucluse, mais après à la Chambre d'agriculture régionale, le CIRAM. C'est-à-dire qu'ils ont le Conseil Général a dit, voilà, on vous met le CIRAM à disposition, mais il faut que ce soit un élu de la Chambre d'agriculture du Vaucluse, siégeant à la Chambre régionale, qui soit président du CIRAM. C'est pour ça que depuis ce temps-là, ce sont des élus du Vaucluse, siégeant à la région, la Chambre régionale à Aix, qui sont présidents. Et c'est pour ça que j'ai hérité de la présidence du CIRAM, comme avant, Monsieur Tamizier et quelqu'un d'autre avant. Donc voilà, c'est la volonté de deux hommes. C'est la volonté de deux hommes, M. Chassineau et M. Garcin, qui étaient passionnés d'agrométéorologie et qui ont créé le CIRAM et qui l'ont fait vivre. Alors, naturellement, le CIRAM, maintenant, est très, très soutenu encore par le Conseil Général avec des subventions non négligeables. Nous bénéficions d'une mise à disposition de locaux gratuitement. Naturellement, nous payons l'entretien, nous payons les frais d'entretien. Nous nous occupons de l'entretien de ces locaux, mais c'est le Conseil Général qui les met à disposition pour l'euro symbolique. Et nous fonctionnons avec, au début, ils n'étaient que trois. Maintenant, nous sommes sept ingénieurs. Il y a du secrétariat. Le CIRAM s'occupait beaucoup de... Alors, M. Civadon le détaillera plus que moi, mais tous les problèmes que l'agriculture rencontre en liaison avec la météo, c'est la tavelure, c'est les modèles que nous faisons tourner et tout, toutes ces problématiques-là sont travaillées par le CIRAM. Nous ne faisons pas de météo, nous ne faisons pas de prévision de météo, nous achetons les prévisions météo à Météo France, et là-dessus, nous faisons tourner le modèle pour savoir ce qui risque de se passer ou ce qui va se passer si la météo continue ça, la chaleur, la température, l'hygrométrie, les maladies qui se déclenchent et tout. Mais ça, M. Civadon va mieux vous expliquer que moi. Voilà, en clair et rapidement, et en quelques mots, comment est né le CIRAM, comment vit le CIRAM. Et naturellement, vous allez voir que le CIRAM, qui est une association régionale, maintenant rayonne dans plusieurs régions françaises et nous vendons des prestations de services parce que nous essayons d'avoir une autonomie financière. Nous vendons nos prestations de services, nous faisons des actions pour des groupes d'agriculteurs. nous allons essayer de développer encore cela, mais nous sommes maintenant dans 5 ou 6 régions.
Un mot sur le sigle, pour revenir sur le sigle CIRAM, donc c'est le Centre d'information régionale agrométéorologique, voilà. C'est bien ça.
C'est ça.
D'accord, c'est à ne pas confondre avec la météo, on est bien au clair là-dessus.
Pas du tout.
Ça pourrait prêter à confusion.
Ah non, mais si quelqu'un téléphone au CIRAM pour avoir la météo de demain, bon, nous le savons, mais c'est pas du tout notre rôle. Là, nous sommes au service des professionnels de l'agriculture. Nous sommes au service des professionnels de l'agriculture, de leurs institutions, naturellement, parce que les chambres d'agriculture, les GDA, enfin, tous ceux qui rejoignent l'agriculture, nous sommes un service pour les professionnels, conduit et piloté par des professionnels. Et des professionnels bénévoles et des ingénieurs et du secrétariat et autres.
Service a priori gratuit, mais vous facturez certaines prestations, je crois.
Il y a des prestations qui sont gratuites, mais il y a des prestations qui sont payantes. Il y a des prestations qui sont payantes et qui sont souscrites par des agriculteurs, comme la tavelure, le plus bel exemple, c'est la tavelure.
C'est quoi la tavelure?
La tavelure est une maladie cryptogamique du pommier et du poirier, mais surtout du pommier. C'est un champignon qui se développe à partir de tant d'hygrométrie et tant de degrés. Donc quand nous faisons tourner nos modèles, nous avons de la tavelure, nous gardons des ascospores de l'année dernière, et nous déclenchons avec... Nous enregistrons l'hygrométrie dans toutes nos stations, dans tout le département. Quand nous voyons l'hygrométrie qu'il y a avec le rosée du matin, la pluie et autres, et les températures qui s'élèvent, à ce moment-là, on sait que le champignon va purguler, et à ce moment-là, on lance une alerte pour que les agriculteurs vont traiter.
Puissent traiter. Très bien, c'est très intéressant. Pour le moment, on va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien.
Découvrez les hits de demain, avant les autres.
Låt att man jämför osamma uppar. Till i nu kom han grå. Till i nu kom han grå. Vi vet sen jag mar. Zemra nu kom han far. Ty nu nog törsjå. Ty nu nog törnjå.
Écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Prévision gelée de printemps. Après, l'agriculteur, en s'adressant à son conseiller agricole local, il pourra mettre en œuvre des procédures diverses et variées, comme les. Enfin, monsieur Roche, qui est agriculteur, pourra nous en parler.
Il y a des agriculteurs qui ont des systèmes de chaufferettes qu'on allume dans les cerisiers ou dans les arbres fruitiers. Il y a des systèmes anti-gelés aussi avec l'aspersion. où on met l'aspersion sur les arbres fruitiers et à ce moment-là, il y a le carapace d'eau gelée qui vient protéger la, la fleur. Bon, il n'y a pas de miracle. Il y a pas, malheureusement, nous n'avons pas de miracle. Et ce sont des endroits ponctuellement qui sont protégés. Alors, c'est plus les producteurs de pommes et de poires qui ont tous ces moyens antigels avec l'aspersion. Et c'est quelques producteurs de cerises et d'abricots qui ont des, ce qu'on appelle des chaufferettes et qu'ils allument leurs chaufferettes. Ce sont des grosses bougies et ils allument leurs bougies et ça fait de la fumée, ça relève un petit peu le truc. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas de miracle.
C'est vrai qu'un matin tôt, j'ai trouvé un champ de bougies sur la route d'Aubignan. J'étais étonnée.
Voilà,
Le
champ de bougies que vous avez vu, c'était quelqu'un qui avait allumé ses bougies pour protéger. À une époque, ce qui est interdit maintenant, nous allumions des pneus. Et sur la région de Cavaillon, j'ai vu un matin noir de fumée de pneus. Et ça, ça a été interdit, mais c'était aussi un moyen, alors, d'une efficacité aussi relative, mais comme tous les moyens antigels, mais qui arrive des fois à faire quelques degrés de différence. Il y a aussi des systèmes de brasseurs d'air. Alors qu'ils sont aussi installés, il y en a quelques-uns au pied du Ventoux, on en voit dans la vallée du Rhône, il y a des brasseurs d'air qui sont installés pour remuer l'air. Quand le froid se forme en bas et que théoriquement l'air chaud, enfin, l'air est plus chaud en haut, il y a des brasseurs, on met des grands ventilateurs en route et à ce moment-là, ce brassage d'air fait que, alors naturellement on est sur des degrés, un degré, demi degré, mais des fois ça suffit pour
ça
protéger.
Ça suffit pour éviter la catastrophe.
Pour éviter la catastrophe complète, on arrive à protéger à 50-60%. Il n'y a pas de miracle quand même, malheureusement.
Sinon, il y a d'autres types de risques qu'on peut éviter. Je pense que la grêle, malheureusement, on ne peut pas l'éviter, ça.
Non, la grêle, il y a des prévisions de grêle et il existe des canons à iodure d'argent qui sont maintenant implantés dans quelques communes dans le secteur. Et quand la prévision grêle est donnée, à ce moment-là, ils allument les canons et cette iodure d'argent qui est brûlée au sol et qui est projetée dans l'atmosphère arrive à réchauffer les nuages. Là aussi, ce sont des moyens qui... Il faut y croire beaucoup.
Donc ça transforme la grêle en pluie.
Ça transforme
la grêle. Ça abaisse quelques degrés la précipitation.
Voilà. Disons que le nuage froid où la grêle s'est formée arrive des fois à être réchauffé et à ce moment-là, ça redevient de l'eau. Mais ça, là aussi, malheureusement, où il en faudrait plus, il n'en est pas persuadé. Il y a d'autres systèmes d'épandage d'iodure d'argent avec des avions sur les nuages. Tous ces systèmes sont perfectibles. Tous ces systèmes sont perfectibles, mais quand même, il y a des progrès, il y a des gens qui font avancer ce genre de choses, et le Conseil général finance aussi ces canons iodure d'argent.
Très bien. Si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale.
RTVFM. Découvrez la Provence autrement.
Découvrez la Provence autrement.
RTVFM.
Baby, just believe it. Get to know me. Come closely and let it all go down. Hands in the air, baby.
Yvan Civadon, directeur adjoint du CIRAM, accompagné donc de Gérard Roche, président du CIRAM. Donc vous nous avez un petit peu expliqué à quoi servait le CIRAM, depuis quand il existe, ce qu'il fait, etc. Et on va donc reprendre un petit peu sur ses moyens maintenant. Donc la plupart du temps, donc les services offerts par le CIRAM sont gratuits. Du coup, ça pose la question de savoir un petit peu par quels moyens ils fonctionnent.
Donc il y a des services qui sont gratuits et il y a des services qui sont payants.
D'accord.
Donc il y a des services qui sont payants par le biais d'envoi de bulletins ou de SMS, de messages, enfin bon, tous les moyens modernes. Et après il y a aussi des groupes d'agriculteurs qui achètent un service spécifique au CIRAM, et à ce moment-là, là, naturellement, il y a une facturation du CIRAM. Mais M. Civadon va peut-être vous expliquer un peu plus tout ce qu'on fait, le fameux BSV et autres.
Alors, un petit détail, si c'est gratuit, ça veut dire que vous avez des financements par ailleurs?
Ah oui, mais nous sommes toujours financés, nous sommes toujours soutenus financièrement par le... Alors, maintenant, ça s'appelle le conseil territorial, mais c'est toujours le conseil territorial qui, quand même, finance une grande partie du conseil du CIRAM et sur l'argent public.
Mais puisque ça intéresse la région et le département.
Disons que ces financements que nous obtenons du conseil territorial, de la chambre régionale, de la part de certains organismes, nous donnent la vocation de faire de la diffusion gratuite. Il y a de la diffusion gratuite globale, généralisée, et après il y a de la diffusion qui est, je dirais, plus ciblée pour des gens qui veulent vraiment quelque chose de spécifique.
Donc en tant que particulier, je peux aller voir sur le CIRAM? Ça va être compliqué pour moi.
Sur le site du CIRAM, vous retrouverez tout ce qui est, tous nos graphiques de réchauffement climatique, de l'eau, de tout ça, tous ces graphiques qui sont à disposition de tout le monde. Si après vous avez besoin d'un conseil spécifique, alors là, il faudra peut-être...
C'est vrai qu'il y a un rapport d'activité qui est très intéressant sur le site du CIRAM. Et donc le CIRAM a aussi d'autres missions, s'il me semble.
Oui,
que fait-il d'autre?
Depuis 2009, le CIRAM s'est fortement impliqué dans les procédures éco-phyto, dont l'objectif est de réduire les intrants de 50%, du moins si c'est possible, puisque au sein du CIRAM, nous avons l'animatrice filière viticulture qui rédige une fois par semaine un bulletin, le bulletin de santé du végétal, qui indique aux agriculteurs, aux viticulteurs en l'occurrence, savoir s'il faut traiter, quelles sont la pression des maladies, du mildiou, de l'oïdium. Voilà. Et d'autre part, on a mis à disposition une base de données qui permet justement aux techniciens viticoles de saisir des observations qu'ils font dans leur vigne pour voir quel est l'état des maladies et s'il y a nécessité à traiter.
D'accord.
Ce sont des procédures nationales qui sont présentes dans toutes les régions.
Votre dernier modèle que vous êtes en train de mettre en route, c'est quand même le modèle drosophila. C'est-à-dire vous êtes en train de nous dire et nous prévoir quand c'est que les drosophiles vont manger les cerises au fond de nos jardins.
Alors
voilà. Oui, donc c'est un modèle qui a été conçu par le service de la protection des végétaux, l'ancien service de protection des végétaux, et qui est assez efficace, qui permet de déterminer comment la population de drosophiles évolue en fonction des températures et de l'humidité. Et ensuite, à partir de ce modèle, il y a des avertissements qui sont lancés pour dire à ce moment-là, il faut traiter parce que les drosophiles vont pondre dans les cerises.
D'accord. Et traiter comment? Il y a des consignes quand même par rapport à...
Alors, les consignes, c'est plutôt du domaine de la Chambre d'agriculture et des techniciens des chambres ou techniciens des organisations professionnelles qui disent, en fonction de ce que nous a dit le CIRAM, il faut traiter avec tel produit, tel jour.
Voilà. En fonction de l'avancement de la maturité. On a des cas, on a mis au point avec les gens du SRAL et avec, disons, les ingénieurs du CTFL et des stations régionales, on a mis au point des calendriers de protection phytosanitaire, ce qu'on appelle, ça s'appelle comme ça. Et donc, on sait que quand on est loin de la récolte, on traite avec tel produit. Quand on est un peu moins loin, on traite le produit. Quand on est à une semaine de la récolte, on traite avec tel produit. Donc on a des alternances de produits d'abord pour pas qu'il y ait accoutumance de la drosophile. Et puis après, en fonction de ce qu'on appelle le fameux DAR, le délai avant récolte. Et donc pour avoir une récolte au jour J, sans LMR supérieur, il faut traiter tant de jours avant. Et donc tout ça, c'est calculé, mais tout ça, tous ces produits, quand ils sont mis sur le marché, nous avons, c'est l'ANSES, ANSES, ça veut dire Agence Nationale de Sécurité
De la Santé aussi.
De la Santé, c'est-à-dire c'est l'ANSES, c'est ceux qui évaluent tous les médicaments, qu'ils soient humains, vétérinaires ou pour les plantes.
Ou pour les plantes.
Pour les plantes. Donc cette ANSES, quand elle fait l'homologation d'un produit, nous donne les données qu'il faut respecter pour pas avoir de dépassement de l'LMR, la fameuse limite maximale de résidus autorisés, qui est très 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 inférieure à tout ce qu'on peut trouver au seuil de nuisibilité. Et donc en fonction de notre modèle drosophile, en fonction du savoir-faire des agriculteurs et des ingénieurs de chambre d'agriculture et de tous les techniciens qui sont sur le terrain, on positionne nos traitements pour justement que le consommateur ne soit pas mis en danger.
Et aujourd'hui, il y a des menaces au niveau champignons, insectes ou autres sur les récoltes ou pas ?
Drosophile, oui.
Les cerises, ça y est, elles sont arrivées à maturité,
Voilà, mais certaines variétés, c'est là la difficulté, on traite une variété, puis après on traite l'autre variété, puis l'autre variété. Bon, il va y avoir des cerises pendant encore plus d'un mois et demi, et donc en fonction de la maturité de la variété, on apporte les traitements qu'il
faut. Et la menace n'est pas la même, hein. D'accord.
La menace est croissante. On sait que ça croît.
Oui, la drosophile est toujours là, la mouche est toujours là, quoi.
D'accord, mais elle agit plus ou moins.
Elle agit plus ou moins, et puis il y a plus ou moins de population, parce que malheureusement, elle se développe ailleurs, dans d'autres cerisiers qui ne sont pas traités, et donc la population augmente. Et c'est là, et c'est ce modèle va surveiller l'augmentation de la population, et en fonction des chaleurs qu'elle a, ou du froid, ou du vent, la drosophile se développe moins. Donc en fonction de ça, on sait l'intensité du vol.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce fameux réchauffement climatique dont on parle toujours au niveau du Vaucluse ? Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Eh bien, à partir des données qui sont dans notre base de données, on a effectivement ce réchauffement climatique, il est là, hein, puisqu'on prend entre 0,3 et 0,4 degrés tous les 10 ans.
Tout de même, oui.
Voilà. Et d'autre part, on a noté depuis quelques années que, par exemple, les dates de vendange étaient de plus en plus précoces.
Oui.
Alors cette date de vendange de plus en plus précoce, ça décale la période de maturité. Avant, la maturité du raisin se faisait au début de septembre, alors que maintenant c'est plutôt fin août, dans une période qui est encore chaude, avec des conséquences sur les qualités du vin qui sont beaucoup plus chargées en alcool. Et donc là-dessus, il y a quand même des conséquences. Voilà.
Donc réchauffement, oui, et sécheresse aussi, on perd en précipitation aussi.
Alors, au niveau des précipitations, il n'y a aucune tendance qui se détache. Hein. Il y aura toujours de la pluie. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une certaine stabilité dans les pluies d'hiver et de printemps et une diminution des pluies d'été et également une augmentation des pluies d'automne.
Ah oui, voilà. C'est vrai. Oui. Même si on n'est pas agriculteur, on s'aperçoit un peu.
Oui,
c'est ça,
on
la tendance.
On le ressent tous les jours.
Et le malheur, c'est quand il pleut à l'automne, il pleut très fort et souvent, ce n'est pas très profitable. Mais toutes ces données sont extrêmement intéressantes parce qu'on sait très bien que pour que un arbre fleurisse correctement ou une fraise fleurisse correctement au printemps, il leur faut un temps de dormance en dessous de 7 degrés. Et donc, on mesure là, on analyse et on voit bien, on s'aperçoit qu'avec nos collègues, certaines variétés de cerises où il faut plus de dormance que d'autres sont en train de beaucoup moins produire dans le Gard et ne plus produire à Perpignan. C'est-à-dire que la sumide, avec le peu de dormance qu'elle a l'hiver, eh bien, au printemps, elle fleurit, mais elle est stérile et donc on a presque pas de récolte. Donc on a un vrai problème d'adaptation des variétés, des espèces.
Ouais.
Et en viticulture, ils sont en train de rechercher des nouveaux clones de Syrah ou des nouveaux clones de Grenache pour résister à ces fortes températures et pour retarder la maturité. Donc il y a tout un enjeu extrêmement important sur le réchauffement climatique, de changement de variété, de changement de pratique de culture et d'adaptation. Parce que si on sait qu'il faut traiter un mois avant le début de la vendange pour le verre, eh bien, il faut décaler les traitements pour être justement dans ces... Et donc il y a des enjeux extrêmement importants sur ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Mais là, nous travaillons sur le réchauffement climatique acté. Parce qu'après, pour faire un réchauffement climatique, comme les experts du GIEC veulent, et nous disent, ben oui, ça va se réchauffer, ceci, ça va, on va prendre 2 degrés, on va prendre 3 degrés, vous voyez qu'il y a, on a subi des gelées cette année, des gelées trentenaires, c'est-à-dire il y avait 30 ans qui n'avaient pas fait aussi froid. Et nous avons eu le mois de mars le plus caniculaire depuis 1952. Vous voyez qu'il y a, quand même, en 1952, il avait fait aussi un mois de mars très chaud. La météo est quelque chose qui se répète, et ce sont des cycles qui se répètent.
Des cycles qui peuvent être très longs, oui.
Alors, c'est vrai que globalement, nous réchauffons, mais c'est vrai que nous avons connu des mois de mars très chauds, la fameuse canicule de 2003,
je crois.
On l'avait connu avant. Vous voyez, c'est pour ça que on peut pas dire aux agriculteurs demain le CIRAN va pas dire, ben vous savez, ça se réchauffe, demain on plante des clémentines.
Non, c'est pas si simple.
C'est pas si simple que ça. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement perfectible qu'il faut qu'on surveille. Mais bon malheureusement, et puis qu'on tire les conséquences de cet état de fait qu'il pleut moins à certains endroits. Alors après, on a eu deux hivers très pluvieux il y a pas très longtemps. Par contre, on a eu un hiver aussi où il est pratiquement jamais plu. Donc vous voyez, c'est hétéroclite.
Oui, la variabilité existe tout le temps.
De toute façon, on ne maîtrise absolument pas. Très bien. Ben, je vous rappelle donc que Yvan Civadon, qu'on remercie, donc directeur adjoint du CIRAM, et Gérard Roche, président. On vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Découvrez les tubes de demain. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby. Nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when go crazy, you take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back, you take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be.